France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
À la une d'une semaine en France, la baisse du coût de l'électricité, car à partir de demain, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat, les factures d'électricité devraient baisser pour les tarifs réglementés, moins 15% en moyenne, mais pas de façon uniforme pour les 24 millions de foyers éligibles. On va vous préciser tout cela dans un instant. Et à l'avenir, eh bien, les prix d'électricité seront durablement fléchés à la baisse. Rien n'est moins sûr, avec une nouvelle hausse des tarifs en vue à partir du 1er janvier 2006. Et bonsoir Yaël Gauze, vous nous direz tout à l'heure à quel point le coût de l'énergie est un dossier politique.
Oui, je vous raconterai comment les questions énergétiques ont électrifié les débats budgétaires jusqu'à la censure du gouvernement Barnier, sujet sensible, sujet de pouvoir d'achat. Certaines communes ont pris les devants et s'organisent pour devenir autonomes.
À tout à l'heure Yaël. Et alors plus largement ce soir, question sur notre souveraineté énergétique, sachant que les deux tiers de l'énergie consommée en France restent fossiles. Avec Donald Reagan qui veut forer à tous les étages, question aussi sur la transition énergétique de la France, plus d'écologie ou pas, avec quelle cohérence, quelle constance dans les politiques publiques. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le point central de ce dossier. Le coût de l'énergie en France, c'est le thème d'une semaine en France. On en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
J'ai dit Reagan, évidemment, vous avez compris qu'il s'agissait de Donald Trump. Bonjour Marie-Amandine Stévenin.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du FC Que Choisir et vous avez une vue notamment sur les attentes des consommateurs. Une baisse moyenne donc de 15% de la facture d'électricité à partir de demain sur les tarifs réglementés. Mais tous les foyers éligibles ne seront pas logés à même enseigne. Ça va dépendre de quoi
hein? En fait, ça va principalement dépendre de l'abonnement dont bénéficie le consommateur. La baisse qui est annoncée, c'est la baisse du TRVE, c'est-à-dire des tarifs réglementés de vente d'électricité. Si votre contrat de fourniture d'énergie n'est pas un contrat qui est un contrat TRVE, vous n'allez pas connaître cette baisse de facture.
Et pour ceux qui ont un mix à la fois du gaz et électricité, pour eux, ce sera moins cher. Enfin, ils auront moins de baisse.
Ah bah alors, pour ceux qui ont un mix gaz et électricité, là, le TRVE qui va baisser, il est spécifique à l'électricité. Donc on parle pour l'instant que d'électricité. Il y a des gens qui vont avoir des abonnements d'électricité qui sont indexés sur le TRVE. Donc ceux-là peuvent éventuellement voir leur facture d'électricité baisser. Puisque
TRVE,
c'est un
index, je précise, tarif réglementé hein, de vente d'électricité.
Voilà, TRVE, pardon, tarif réglementé de vente de l'électricité. Donc ceux qui ont un tarif qui n'est pas forcément le TRVE, mais qui est indexé sur cet indice-là, peut éventuellement voir baisser, mais il faut avoir pour ça un contrat qui prévoit que l'indice varie.
Et vous estimez justement que les contrats d'énergie ne sont pas suffisamment transparents ?
Oui, c'est une vraie difficulté puisque le consommateur a la liberté de choisir son fournisseur. C'est-à-dire qu'il peut aller faire son marché justement en fonction des prix du marché de l'électricité et aller choisir un fournisseur qui est moins cher. Mais c'est très compliqué de s'y retrouver dans cette jungle puisqu'il y a des tarifs fixes. Il y a des tarifs qui varient. Il y a des tarifs qui varient en fonction de certains indices, d'autres qui vont varier en fonction des indices du marché de gros, donc qui sont extrêmement peu stables. Donc tout ça, c'est vraiment pas clair. Et puis vous avez aussi une difficulté quand vous avez facture d'électricité pour comprendre ce que vous payez hors taxes, quelles sont les taxes qui s'appliquent à tout le monde, quelles sont les parts de réseau, la TURP, enfin voilà, tout ces...
La TURP qui est une taxe. On va en reparler. Et dans cette jungle des offres d'électricité, comment d'ailleurs le consommateur peut-il s'y retrouver justement ?
Alors nous on propose à UFC Que Choisir un comparateur qui présente toutes les offres d'électricité qui sont disponibles pour le consommateur pour lui permettre justement de s'y retrouver un petit peu en ayant un petit indice pour attirer l'attention du consommateur quand c'est un fournisseur et que c'est une offre qui propose un tarif qui est indexé sur le marché de gros, parce que le marché de gros est extrêmement volatile. C'est la raison pour laquelle, il y a deux ans, ça a beaucoup augmenté. C'est en train de baisser maintenant. Ça, c'est les conséquences du marché de gros.
On va en reparler. Marie-Amandine Stévenin, vous avez fait partie de la commission énergie-logement entre 2020 et 2021. Quel bilan faites-vous des aides, toutes ces aides à la rénovation ?
Ah, le problème des aides à la rénovation énergétique, le bilan n'est pas très, très positif parce qu'il faudrait que les gens puissent être beaucoup plus aidés. Il faudrait que ce soit beaucoup plus facile pour rénover, parce que la vraie baisse de la facture d'électricité ou de la facture de gaz d'ailleurs, la vraie baisse de la facture d'énergie, on l'a à une condition, c'est d'avoir bien isolé. Mais isoler, c'est cher. La meilleure isolation, c'est l'isolation globale de son logement. Et ça, pour ça, il faut que le consommateur soit accompagné.
Eh bien, justement, on va en reparler. Merci beaucoup, Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC Que Choisir. Vous parliez du maquis des aides et autres subventions pour la rénovation énergétique des bâtiments. Eh bien, un exemple, justement. Nous partons à Compiègne, dans l'Oise, là où une association baptisée Réseau Eco Habitat intervient, justement, auprès des familles à faible revenu pour qu'elles obtiennent ces aides, toutes les aides auxquelles ces familles ont droit contre la précarité énergétique. Reportage signé Give Anctil.
Donc je suis Franck Bio, je suis fondateur de Réseau Ecohabitat, qui a été créé en 2014. Donc Réseau Ecohabitat est né en fait de cette volonté de permettre à des personnes très modestes d'accéder aux dispositifs d'amélioration de l'habitat, parce que j'ose dire que de l'argent, il y en a même beaucoup, mais il est assez difficile à aller chercher pour des gens qui sont en fracture numérique, qui sont isolés socialement, qui vivent avec des très petites ressources. Et donc, il n'y a pas de raison que s'il y a des gens en difficulté, qu'il y a des financements pour aider des gens à faire des travaux, il n'y a pas de raison que ça ne crée pas en fait toute une dynamique pour aider des gens en fait à vivre dignement dans leur logement.
Là, on est dans un petit quartier périphérie de Compiègne avec des petites maisons individuelles.
Alors là, on va où, là, du
coup ? Donc, on va chez une dame, c'est en périphérie de Clairoy. On monte un programme de travaux, des travaux de toiture, c'est des travaux d'électricité, d'assainissement, sortir la maison de l'état de passoire énergétique. Et par définition, quand on n'a pas d'argent, on n'imagine pas que c'est possible de faire des travaux d'amélioration de son habitat.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphanie,
bonjour.
Asseyez-vous dans ma petite cuisine toute pourrie.
Alors moi, je suis Stéphanie, femme de 53 ans, qui vit en province tranquillement. Comment vous dire, ma profession, ex-webmaster. Malheureusement, je n'aime pas parler des choses négatives, mais j'ai eu un accident qui fait que je ne pouvais plus exercer mon métier. C'était plus possible. Donc je me suis vraiment retrouvée dans la merde. Je suis désolée de dire ça, mais dans la merde. Bon, la maison m'appartient, donc c'est ce qui me sauve. Même s'il prend l'eau, je paye pas le toit, donc déjà, c'est pas mal. Alors, le problème ici, si vous voulez, c'est que c'est une vieille maison des années 50, donc forcément, les murs, ils sont pas très bien isolés, les fenêtres sont en bois, les vitres, elles n'ont pas de double vitrage. Donc forcément, la maison, elle est... Quand il fait froid dehors, vous voyez, c'est de l'eau qui coule.
C'est la condensation.
Mais alors là, ma chambre est devenue complètement noire de moisie, celle de mon fils aussi. Vous voyez, la cuisine, ça a été repeint il y a 3 mois.
On voit que ça a été pas récemment, mais le noir...
Vous vous rendez compte ? Ici aussi.
Vous voyez, ça, c'est votre chambre.
Ça a été repeint en même temps. Et les fenêtres, ici, je peux quasiment pas l'ouvrir, celle-là. Tellement c'est gonflé, les volets ne montent pas. Tout s'est dégradé, regardez. Vivre dans quelque chose d'insalubre, j'aurais jamais pensé ça, en fait. Et donc, aujourd'hui, il faut tout refaire, en fait.
Oui. Mais vous n'avez pas les moyens de faire les travaux, quoi.
Ah non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. C'est énorme de faire les travaux. Si vous n'avez pas un minimum de pécule à côté, vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé. Je suis passé une fois à côté de la gare, j'ai vu Réseau Ecohabitat. Et là, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Ils sont venus faire le tour de la maison, ont bien listé ce qui était important. Et aujourd'hui, je vais avoir la chance de peut-être voir le résultat du projet et enfin arriver à une vie normale, on va dire. Ah, ah. Oui.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour. Vous pouvez vous mettre dans le salon, sinon mettez-vous là. Oui, vous êtes comme chez vous.
Moi, je suis Camille Deguy, je suis coordinatrice sociale et financière chez Réseau Ecohabitat. C'est la troisième visite que je fais auprès de Mme Torrent et aujourd'hui, on vient lui présenter le programme de travaux que l'on pourrait porter.
C'est-à-dire les solutions pour sortir de la précarité énergétique.
Oui, exactement.
Alors, votre logement est considéré comme très dégradé au titre de l'ANA. Donc, on va reprendre au niveau de la toiture, tout ce qui est gouttière, évacuation des eaux pluviales, création d'une isolation thermique par l'extérieur.
D'accord.
On reprend l'isolation des combles.
Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien.
On remplace toutes les menuiseries par des menuiseries en PVC double vitrage.
Ça c'est top.
Ça c'est nickel. On vous refait votre électricité. Donc en gros, on vous met en norme la plomberie et l'assainissement pour que vous n'ayez plus de problèmes.
Oh, c'est génial. Donc là maintenant, il faut trouver les financements, c'est ça?
Alors, on serait sur un programme de travaux entre 76 et 79 000 euros TTC. Sur cette somme, on serait sur à peu près 74 000 euros de subventions publiques.
C'est énorme.
C'est une très belle
somme. C'est énorme.
Du coup, vous l'avez compris, là, on serait sur 74 000 euros de subventions publiques auprès de l'ANA, de la région de Hauts-de-France, du conseil départemental de l'Oise et de la collectivité Compiègne. Il y a encore un delta à combler.
Oui, oui.
On peut aller en chercher une partie auprès de financements privés.
Oui.
D'accord. Et donc, on serait sur un reste à charge entre 50 et 500 euros.
Et là, par mètre carré?
Non, non, au final.
Non, non. Je sais pas quoi dire tellement, c'est incroyable. Mais je suis... Waouh. Je sais pas quoi vous dire. On peut voir enfin l'avenir, le ciel bleu, comme on dit. J'ai plus le mur gris, là, tout pourri, bouffé par la moisissure. Ça fait chaud au cœur. Bon, vraiment.
C'est chouette.
Et merci. J'arrive pas à pleurer ou à forcément montrer
c'est
mes
pas
émotions.
Ça, pas d'image.
Non, mais c'est, si vous pouvez me faire une séquence émotion, ça m'arrangerait, moi.
Voilà donc pour ce reportage de Guy Vanctil sur la précarité énergétique à Compiègne dans l'Oise. On en parle à présent avec la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Bonsoir Emmanuel Wargon.
Bonsoir Éric Delvaux.
Cette question des logements, d'ailleurs vous la connaissez bien pour avoir été auparavant ministre du logement du gouvernement Castex. D'ailleurs vous connaissez le travail de cette association que l'on vient d'entendre dans ce reportage, l'association Réseau Écohabitat.
Absolument, je connais bien Réseau Écohabitat qui est en Picardie. Et notamment dans l'Oise, j'y suis allée d'ailleurs. J'ai rencontré, pas Stéphanie, mais une autre personne dans une situation assez similaire. Ils font un travail magnifique, parce que c'est vrai qu'on a des personnes en situation de précarité qui sont propriétaires de leur logement, mais vous avez entendu dans le reportage 80 000 euros de travaux, et vous avez entendu aussi 80 000 euros de travaux, et avec toutes les aides mises bout à bout,
il ne reste plus que 500 euros à payer.
Un reste à charge qui est vraiment très limité. Et donc ça veut dire que c'est possible, ça veut dire, comme ça a été dit, que les aides existent et qu'il faut aller les chercher.
Emmanuel Wargon, c'est vous aussi qui avez décidé donc de cette baisse de moins 15% en moyenne à partir de demain sur les tarifs réglementés de vente d'électricité. D'ailleurs, comment ce taux a-t-il été fixé, retenu?
Alors évidemment, c'est le résultat d'un calcul et d'une méthode de travail qui fait l'objet de beaucoup de travail préliminaire.
Ça tient compte de quoi ?
En fait, une facture d'électricité, la vôtre, la mienne, c'est trois morceaux. Le prix de l'électricité lui-même, le coût de production de l'électricité.
Le transport.
Le tarif de transport, les réseaux. L'électricité, il faut bien qu'elle arrive jusqu'à chez nous. Donc les grandes lignes, les petites lignes, transport et distribution.
Et les taxes.
Voilà. Donc la partie électricité elle-même sont les prix de marché et les tarifs réglementés. Ils sont approvisionnés avec en lissant cet approvisionnement sur 2 ans, ce qui évite un peu les à-coups. Et donc là, toutes les personnes qui sont à ce tarif réglementé, elles voient dans leur prix de vente la baisse qui s'est produite l'année dernière et celle d'avant. Les prix étaient très élevés en 2021-2022 à cause de la crise. Ils sont maintenant en train de revenir à un niveau qui est nettement plus abordable. Donc la part électricité, elle baisse beaucoup. La part réseau augmente un petit peu, parce qu'on a besoin de continuer à investir dans les réseaux. Et les taxes, la fiscalité est revenue à son niveau d'avant-crise, donc les taxes augmentent aussi un petit peu. Et tout ça, ça fait moins 15%.
Et pourquoi est-ce qu'elle reste toujours plus chère qu'avant la crise en Ukraine, ce prix de l'électricité au final?
Parce qu'en fait, on commence à se rapprocher vraiment des coûts de production. Et ces coûts de production, ils sont liés au coût du nucléaire, qui nécessite de faire ces travaux de maintenance sur les centrales.
Problème de corrosion, on en parle plus, ils sont
ça,
derrière
c'est derrière nous. Il faut saluer l'action d'EDF qui a vraiment remonté la production. Mais voilà, le coût du nucléaire, on rentre aussi dans la période dans laquelle il faut prolonger la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans. C'est aussi le coût des énergies renouvelables qui aujourd'hui sont à peu près au prix de marché actuel. Et donc, ceci donne un prix de marché qui est un peu plus élevé qu'avant la crise, c'est vrai.
Je reviens sur les taxes. On se rappelle que le gouvernement Barnier envisageait de les augmenter. Comment faites-vous à la Commission de régulation de l'énergie pour voir à long terme dans cette instabilité politique permanente maintenant ?
Alors, les taxes, c'est une prérogative gouvernement et Parlement. Donc, il nous arrive de donner notre avis. Et c'est vrai, quand le gouvernement Barnier avait prévu d'augmenter vraiment énormément les taxes sur l'électricité...
On il y a annoncé dit, parce que la censure était au bout. Hein.
On avait dit attention, parce que si on veut inciter à consommer plus d'électricité, typiquement une fois qu'on a rénové les logements, sortir des énergies fossiles, ça veut dire plutôt des pompes à chaleur par exemple, et ça c'est de l'électricité, donc soyons cohérents, si on veut plus d'électricité, il ne faut pas trop la taxer. Mais les taxes, ça reste évidemment une prérogative gouvernement-parlement.
Mais est-ce qu'au fauteuil où vous êtes, vous n'exigez pas plus de constance politique pour voir à long terme? L'énergie, c'est d'être du long terme.
Nous, nous travaillons pour le consommateur, mais pour le consommateur d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc dans la partie qui est vraiment chez nous, les réseaux, on travaille justement à avoir cette visibilité et cette constance. Et c'est vrai qu'on appelle de nos voeux une politique qui, voilà, qui tient sur le temps long.
Comme aux États-Unis.
Parce que c'est ce temps long de la transformation qui est indispensable.
Pour les 10 prochaines années, d'ailleurs, la politique énergétique que compte mener la France, est-ce qu'elle vous semble cohérente, d'ailleurs, avec un autre objectif, celui de la baisse des émissions de gaz à effet de serre? Il y a une cohérence, là?
En tout cas, on a à la fois besoin de réagir face au changement climatique, et on le voit tous les jours, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire moins d'énergie fossile, et besoin aussi d'aller vers plus de souveraineté. Et les énergies fossiles, non seulement elles émettent du CO2, mais en plus on ne les produit pas. On ne produit pas le gaz. On importe du gaz, on importe du fioul, on importe du pétrole. Donc quand on va vers du biogaz, quand on va vers de la chaleur à partir de bois, par exemple de granulés, ou quand on va chercher la chaleur des installations industrielles, et quand on va vers l'électricité, qui est complètement décarbonée, on va à la fois vers moins d'énergie fossile, moins de gaz à effet de serre, moins de changement climatique, et plus de souveraineté. Donc là, le gouvernement a mis en consultation, dans la phase finale, un document un peu stratégique qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie.
C'est la et troisième
qui, voilà, qui donne cette vision pour les 10 ans qui viennent. Et voilà, pour moi, cette vision me paraît vraiment aller dans ce sens-là et on la soutient.
Et ce programme pluriannuel de l'énergie va se réunir en mars. Vous allez y contribuer. Qu'allez-vous apporter ?
Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que dans cette logique-là, il faut aussi veiller à l'optimum économique. C'est aussi notre rôle, puisque ce rôle de régulateur économique de l'énergie, c'est d'avoir le meilleur système possible au meilleur prix. Et donc, on a probablement encore des choses à faire pour avoir ces énergies au meilleur prix. On a fait une contribution un peu technique là-dessus.
Le Haut Conseil pour le Climat, qui lui aussi, d'ailleurs, est une autorité indépendante. On dit commission, mais en fait, vous êtes une autorité
Oui, ça s'appelle commission, mais en fait, on est une autorité administrative indépendante.
Eh bien, une autre autorité indépendante, le Haut Conseil pour le Climat, dénonce ce matin le manque de transparence du plan énergie de la France. Qu'est-ce qui mériterait d'être plus transparent ?
Alors, je vous avoue que je n'ai pas vu cette déclaration du Haut Conseil pour le Climat, donc je vais avoir un peu de mal à la commenter. Mais je trouve qu'au contraire, cette programmation pluriannuelle, qui est discutée depuis longtemps, qui va être adoptée, ça va pouvoir donner une vision claire. Après, il y a un point qui est important, et ça revient sur ce qu'il y avait dans votre reportage, c'est il faut qu'on arrive à produire plus d'énergie décarbonée, au bon prix, et il faut aussi aider au changement des usages. Parce que faire des travaux, ça coûte cher. Changer sa chaudière, ça coûte cher. Changer de voiture pour aller vers une voiture électrique, ça coûte cher. Donc, et puis pour les industries, pour les entreprises qui ont besoin de changer leur mode de production pour aller vers plus d'électricité, ça coûte cher. Donc ce qu'on dit aussi, c'est attention à bien soutenir le développement de l'offre, les nouveaux moyens de production, et à continuer à soutenir la demande, soutenir les ménages, pour les aider dans cette transition.
Donc toujours avoir des prix modérés, si possible. Ces aides de l'État pour l'électricité des particuliers et des entreprises, elles risquent de disparaître au 1er janvier 2026, avec la disparition de ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, hein, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, hein, l'AREN avec un H au bout. 2026 sera charnière pour l'augmentation ou la baisse des prix d'électricité ?
Alors, on a effectivement un mécanisme qui s'arrête au 1er janvier 2026, vous avez raison, qui était la manière dont EDF vend jusqu'à présent une partie de son électricité nucléaire via tous les fournisseurs, que ce soit EDF, le fournisseur ou les autres, jusqu'au client final. Donc ça s'arrête et c'est remplacé par un nouveau mécanisme qui est dans la loi de finances actuelle. Donc, et il y a eu une commission mixte paritaire conclusive aujourd'hui, donc on attend de voir ce que deviendra cette loi de finances, mais qui prévoit un autre mécanisme dans lequel EDF restitue aux consommateurs un éventuel prix de vente élevé si les prix devaient monter. Donc dans les deux cas, on va avoir un système de protection.
Emmanuel Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, on va continuer cet entretien après la première pause musicale et on se demandera notamment ce que signifie la souveraineté énergétique de la France et on verra aussi les ambitions de la France dans sa transition énergétique. Ce sera après Philippe Catherine.
Dormir en cuillère avec toi, me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long, la radio, les chansons. Tiens, le PSG gagne au Barça. Ma scène, n'importe quoi. Dire que je suis comme tous ces cons qui peuvent pas changer de direction. Enfant arrive en criant, mais il crie en se marrant. Non, je suis pas sûr qu'il soit plus adapté. Moi, je ne l'ai jamais été. Je suis habillé pour l'hiver. Zouzou aussi veut prendre l'air. Je te crie, j'y vais chérie. Tu dis oui en montrant ton derrière. Téléphoner à Eddy. Zouzou court après la perdrix. Les nuages se dégagent. Laisse le soleil sur le bocage. Dormir en cuillère avec toi. Se promener dans les sous-bois. Lancer loin une pomme de pin. Comme ça, pour rien. On fait toujours la même chose. Mais c'est toujours différent. Il n'y a jamais de pause. Le temps avance tout le temps.
Dormir en cuillère, vous avez l'image. Extrait du dernier album de Philippe Catherine. Et un grand merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Vous écoutez Une semaine en France, consacrée ce soir au coût de l'énergie. Juliette Gou à la réalisation. Frédéric Barret, rédacteur en chef. Et merci à Aurore Mancip et à Julie Deltay qui m'ont aidé à préparer cette émission.
France Inter, le 18-20.
Et notre invité ce soir, encore pour quelques minutes, Emmanuel Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. On va revenir à ces moins 15% en moyenne à partir de demain pour les tarifs réglementés de l'électricité. Précisez-nous, reprécisez-nous comment ça va se passer pour ceux qui ne sont pas abonnés aux tarifs réglementés.
Alors on a 20 millions de personnes qui sont aux tarifs réglementés, 4 millions qui sont avec une offre indexée, donc c'est pareil, et 10 millions qui eux sont dans une offre libre. Et pour ces 10 millions, en général, ils ont aujourd'hui un prix qui est inférieur au tarif réglementé parce que les fournisseurs alternatifs, la concurrence, justement la concurrence a joué et donc ils ont en général bénéficié d'offres qui sont en dessous. Donc ça veut dire que même avec la baisse, ils sont peut-être à peu près au même niveau maintenant que les tarifs réglementés, peut-être un peu au-dessus, peut-être un peu en dessous. Donc vraiment ce que je voudrais leur dire c'est Regardez votre contrat, regardez où en sont les tarifs réglementés à partir du 1er février. Et à partir de là, comparez, faites jouer la concurrence. C'est bien d'avoir la possibilité de choisir.
On va rappeler qu'en France, l'électricité reste plus taxée que l'essence, que le fioul domestique, que le gaz. Et je reviens sur ma cohérence. Comment retrouver là encore un peu de cohérence avec l'ambition française d'aller vers des énergies plus vertes?
C'est vrai qu'en fait, en tout cas, si on compare avec le niveau de CO2, l'électricité est plus taxée. C'est aussi pour ça que maintenant, je plaide pour une modération sur la fiscalité, sur l'électricité, parce que voilà, il faut rester cohérent dans les signaux qu'on donne aux consommateurs. C'est normal, le consommateur regarde le prix total pour lui et choisit en fonction.
Oui. Et la France a choisi de sortir du gaz fossile à quelle échéance, quel calendrier?
2050.
Est-ce que c'est tenable?
C'est très ambitieux, parce que pour l'instant, on consomme quand même pas mal de gaz, à la fois dans le chauffage, aussi dans les procédés industriels. Alors, on va avoir une montée en puissance du biogaz, Pour l'instant, il se développe, mais ce n'est pas encore extrêmement significatif, mais avec une projection, avec une forte montée du biogaz, qui est issu de la méthanisation agricole ou la méthanisation des déchets. On va aussi pouvoir s'appuyer sur des nouveaux types de gaz, comme l'hydrogène, par exemple. Mais c'est vrai que c'est ambitieux, parce que ça veut dire diviser par deux notre consommation finale de gaz d'ici à 2050. Et le gaz naturel, comme son nom l'indique pas tout à fait, il est en général fossile.
Fabriqué, oui, on va le chercher.
Il est importé et fossile.
L'électricité en France est décarbonée à 95%. Est-ce que l'on fait mieux que beaucoup d'autres pays?
On fait vraiment très bien sur la décarbonation de l'électricité. On fait aussi bien que les pays nordiques, qui en général ont beaucoup d'hydroélectricité, parce que voilà, ils ont des ressources qui leur permettent de faire ça. Mais sinon, grâce au parc nucléaire notamment, on est extrêmement décarboné en électricité. On est l'un des pays qui a le mix d'électricité le plus décarboné. C'est une fierté.
Oui, mais enfin, sachant qu'aucun nouveau réacteur ne sera opérationnel en France avant 2035, je crois, les marges de manœuvre pour la future décennie, elles sont relativement étroites tout de même.
Les marges de manœuvre pour la prochaine décennie, c'est plutôt les énergies renouvelables. Puisque le nouveau réacteur en service, c'est celui de Flamanville. On l'a attendu un certain temps, mais il est en service depuis quelques semaines maintenant, depuis décembre. Et le nouveau nucléaire, lui, il est en préparation, effectivement, pas à horizon de très court terme.
Avec des coûts énormes,
décennie 2035-2040. Les coûts ne sont pas encore complètement chiffrés. Ils sont en train d'être évalués. Il y a la partie coût lui-même du réacteur et puis il y a la partie financement. Donc, toute cette période-là, il faut des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien.
Je me tourne à présent vers vous, Yaël Gauz, pour le volet politique de cette baisse du tarif réglementé. C'est aussi l'aboutissement d'un va-et-vient parlementaire qui a rythmé l'automne budgétaire.
Oui, c'était plutôt mal parti, puisqu'en octobre, le projet de loi de finances prévoit une baisse de 9% seulement du tarif réglementé. À Bercy, on cherche des recettes pour boucler un budget de rigueur. Et l'idée est de relever drastiquement la TICFE, cette taxe sur l'électricité, qui avait été abaissée pour protéger les Français pendant la crise de l'inflation. Donc, fin du bouclier tarifaire en revenant au niveau d'avant-crise. Gain estimé pour les caisses de l'État à plus de 3 milliards d'euros. Un schéma qui suscite très vite une levée de bouclier, y compris chez les alliés de Michel Barnier, comme le député Renaissance Jean-René Cazeneuve.
Franchement, soyons raisonnables. Revenir simplement au niveau de taxes qui était avant la couverture qui a été faite par l'ancien gouvernement, c'est la moindre des choses.
Si les Français ont droit à une baisse sur leurs factures, qu'on leur en fasse bénéficier à fond. Voilà comment le débat se cristallise. Fin novembre, le budget passe à la broyeuse du Sénat, qui s'oppose et qui préfère, lui, renchérir les tarifs du gaz. Le 28 novembre, Michel Barnier rectifie le tir devant les patrons des petites et moyennes entreprises.
J'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. Dans le projet de loi de finances 2025, il n'y aura donc pas d'augmentation de ces taxes. Ça fait plusieurs centaines de millions pour les entreprises.
Voilà, on est une semaine avant l'épreuve de la censure qui sera fatale à Michel Barnier et l'électricité est l'une des lignes rouges fixées par le RN.
C'est quelque chose que demande Marine Le Pen depuis des semaines. Là-dessus, ils l'ont écouté, c'est grâce à Marine Le Pen que les Français ont obtenu ça. On n'est pas dans du marchandage, tout ce que l'on veut, c'est un bouclier pouvoir d'achat pour les Français.
Le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, au micro de Lise Rosweil. Le RN qui trouvera une ultime ligne rouge, la réindexation des retraites pour justifier la censure. Le RN qui s'arroge cette victoire mais qui réécrit l'histoire car la quasi-totalité des groupes politiques gauche-droite refusait que l'électricité soit une variable d'ajustement. Michel Barnier a essuyé les plâtres et passé Noël. Plus personne n'a rouvert ce sujet beaucoup trop sensible.
Sujet électrique, vous aviez même écrit, Yaël, parce qu'on touche là effectivement au cœur des problématiques à la fois du pouvoir d'achat et aussi de la précarité énergétique.
Oui, je vous renvoie au dernier baromètre du médiateur national de l'énergie. L'an dernier, trois quarts des Français ont réduit volontairement leur chauffage pour diminuer les factures. C'est trois fois plus qu'en 2018 et près d'un tiers des Français déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures l'hiver dernier et c'est deux fois plus qu'en 2018.
Et face à ces enjeux d'énergie, eh bien, certaines communes ont décidé de prendre les devants et de devenir autonomes.
Atteindre l'autosuffisance d'ici à 2026, à la fin de son mandat, c'est l'ambition de Catherine Quignon, la maire socialiste de Montdidier, 6300 habitants dans la Somme, ville pionnière, puisqu'elle fut en 2011 la première à se doter de son propre parc éolien. Quatre sont installés aux abords de la commune, là où le vent souffle sur la plaine. Des éoliennes qui couvrent plus de la moitié des besoins en énergie de la commune. La municipalité a divisé par deux ses factures factures et en fait profiter tous ses administrés, comme l'explique Catherine Quignon, venue exposer sa démarche à la ministre de la Transition écologique en novembre 2021.
On fait le calcul et on rend aux habitants. Donc on donne des chéquiers avec un volume d'achat qui est utilisé dans le commerce local et on va essayer d'aider nos habitants aussi à installer des poêles à bois, à travailler sur l'isolation de leurs bâtiments. On va vraiment avoir cette vision-là. Et c'est ces villes-là qui peuvent à un moment donné être les petits éléments moteurs qui viennent aider les autres, être démonstrateurs pour qu'on duplique à grande échelle. Si ça marche chez nous, vous démultipliez par X et ça marche ailleurs. Si on se plante chez nous, le dégât, il est moindre.
Voilà, autre exemple à suivre, Eric, la commune d'Andilly-les-Marais en Charente-Maritime, où 300 habitants du village sont eux-mêmes propriétaires et gestionnaires des trois éoliennes qui sont en service là-bas depuis près d'un an. Une partie de la vente de l'électricité sera fléchée pour lutter contre la précarité énergétique et financer des travaux de rénovation thermique.
Merci Yaël Gauz. Emmanuel Wargon, président de la commission de régulation de l'énergie. Yaël vient de parler des éoliennes. La France veut doubler les capacités de l'éolien terrestre et faire carrément bondir l'éolien offshore en mer, donc de 0,6 gigawattheure en 2022, on passerait à 18 gigawattheure en 2035. C'est un gap énorme. Vous allez gérer les appels d'offres. Est-ce que les appels d'offres offshore sont désormais compétitifs? Parce que ça coûte cher, le offshore. Ça a coûté cher.
Je vais juste dire un mot sur la partie locale et après, je vous promets, je réponds sur les éoliennes. Parce que je trouve ces témoignages locaux hyper intéressant. Là, on avait des exemples dans la Somme, en Charente-Maritime. Moi, j'étais dans l'Allier il y a quelques semaines, avec pareil, énormément de projets locaux. Les endroits où les élus locaux s'en emparent, montent des projets, des éoliennes, du solaire, au bénéfice direct des habitants, partagent le gain. Moi, je pense que c'est extrêmement puissant, qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces projets locaux. D'ailleurs, à la Commission de régulation de l'énergie, on lance un travail là-dessus, là, dans 15 jours, sur comment apprendre de la transition écologique locale, parce que je pense que la clé, c'est vraiment cette bonne imbrication entre
terrain,
une vision nationale, des grands objectifs macro et un projet local de fierté. C'est-à-dire des habitants sont fiers de leurs éoliennes, des panneaux solaires, de la manière dont après ça leur bénéficie et où ils avancent ensemble sur la transition.
Il nous reste 2 minutes.
Sur les éoliennes, oui, il y a un très gros, une accélération à venir, notamment sur l'offshore. On a déjà validé, les chiffres, on a déjà validé 5 gigawatts d'offshore. 1,5 gigawatts sont en service et la cible, c'est les 18 dont vous parliez. Donc, c'est vraiment une accélération. C'est aujourd'hui déjà assez compétitif, même très compétitif. Les éoliennes offshore sont en mer posées. Celles qui sont posées au fond de l'océan sont à des prix qui sont autour de 45-50 euros du mégawattheure. Globalement, c'est pas cher. Celles qui sont flottantes, c'est une technologie qui est moins mature, mais qui permet de s'éloigner plus des côtes, soit un peu plus chères, mais on pense qu'il y a un effet d'échelle. Donc oui, ça sera compétitif.
Sauf que les Français ne sont pas toujours pour ces éoliennes. Comment allez-vous gérer cette non-acceptation des éoliennes?
D'abord, il faut prendre le temps du débat public. Il y a eu de longs débats sur la programmation pour les différentes, ce qu'on appelle les façades maritimes. Là, dans le reportage, c'était très intéressant. Dans les deux cas, c'est des éoliennes, elles sont participatives et les gens sont très contents. Donc, c'est possible.
Merci beaucoup, Emmanuel Wargon. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Merci d'être venue nous éclairer, sans jeu de mots, sur ces coûts de l'énergie. Merci beaucoup et bonne soirée. À suivre l'actualité en région, ce sera avec les journalistes du réseau ici. Nous irons notamment dans l'Hérault sur les traces d'un serial empoisonneur d'animaux. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. Sense. Now Baby Blue, la chanson de Bob Dylan, reprise en 1971 par Marianne Faithfull, l'égérie des 60s qui est morte hier, elle avait 78 ans. Et bien je vous signale à ce propos sur Inter une émission spéciale hommage à Marianne Faithfull, ce sera ce soir à 21h, émission présentée par Mathieu Conquet. La suite d'une semaine en France à la technique ce soir, Loïc Frapsos, Julien Dumont et Florian Dorimini.
France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Cotentin, ici Creuse, ici Hérault. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. J'entends un petit bonsoir, oui. Bonsoir. Dans la Manche, bonsoir, bonsoir. Dans la Manche d'abord, Pierre Coquelin, la recrudescence des sangliers inquiète la Fédération locale des chasseurs.
Eh bien oui, c'est du jamais vu pour reprendre les mots des chasseurs manchois. L'an dernier, la fédération a remboursé 300 000 euros aux agriculteurs du département dont les champs de céréales ont été ravagés. Cette année, la facture pourrait avoisiner les 400 000 euros. Il y a eu 150 dossiers d'indemnisation déposés dans la Manche, notamment dans le Val-de-Serre et le Sud-Manche. Des dégâts dans les cultures, mais aussi des accidents. Leur nombre a été multiplié par 3 en seulement un an. 78 collisions avec des automobilistes recensées en 2024 à cause de sangliers qui passent de champ en champ.
Oui, et comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Eh bien parce que ces sangliers, eh bien ils pullulent. C'est une hausse de la population expliquée par plusieurs facteurs. D'abord le réchauffement climatique. L'hiver, il ne gèle plus beaucoup dans le département. Il y a eu les effets aussi de la tempête Kiaran. Vu que l'accès aux forêts a été interdit pendant des mois, les animaux ont pu se reproduire plus tranquillement. Le taux de mortalité des marcassins est en baisse. Et puis les femelles, les laits ont déporté de plus en plus tôt. Ajoutez à cela la pression des départements voisins, Calvados, Orne ou bien encore Ille-et-Vilaine. Les sangliers vont se cacher même dans les herbues, dans la baie du Mont-Saint-Michel, où il est compliqué de les déloger. Bon, on n'a pas encore essayé une solution pour réguler cette population de sangliers, appelée Obélix à la rescousse.
Et pourquoi pas, on va rétablir les banquets de sangliers à la Uderzo. De la Manche, on trace une grande diagonale jusque dans l'Hérault. Salam Daoui, nous partons sur les traces d'un sérieux empoisonneur d'animaux.
Et oui, on parle de série parce que depuis le début du mois, c'est tout de même le cinquième animal qui meurt dans des conditions plus que suspectes. Dernier en date, samedi, un poney qui s'appelait Tom. Il avait 16 ans, il a succombé après une balade dans la Gardiole. C'est un massif qui se trouve entre Montpellier et Sète. Tom a dû manger quelque chose qu'il ne fallait pas. Les analyses faites par le vétérinaire sont formelles. Il est mort empoisonné. Et donc, dans le secteur, il n'est pas le seul. Au début du mois, en à peine une semaine, deux chiens et deux chevaux sont morts, eux aussi tué en mangeant des morceaux de pain jaunâtre. Selon le maire de Gigean, une des communes de la Gardiole, maire qui s'est fendu d'un communiqué pour appeler les propriétaires d'animaux à la plus grande vigilance. Alors certains contre-cœur ont décidé, par exemple, de faire porter une sorte de muselière à leur cheval pour empêcher de brouter. D'autres préfèrent changer de lieu de promenade carrément, ils se rabattent sur le bord de mer. L'élu, en tout cas, a porté plainte auprès de la gendarmerie, tout comme l'association One Voice, pour qui l'intention meurtrière ne fait aucun doute. doute quant au mobile, eh bien c'est un mystère.
Eh bien, on va rester sur ce mystère dans la Manche. Enfin, dans la Creuse, à Aubusson, Sophie Peretti, la cité de la tapisserie vient de rouvrir ses portes.
Oui, après 4 mois et demi de travaux et un petit dégât des eaux sans gravité, fort heureusement, qui a retardé de quelques jours l'ouverture, le musée qui accueillit plus de 47 000 visiteurs l'an passé n'a pas foncièrement changé. Un nouvel espace a été créé pour stocker les collections de cartons de la cité. Le système de climatisation, trop gourmand, a été changé. Et puis surtout, on a créé au fond de la salle des grandes tentures un couloir qui va conduire à la future extension. 8 ans après son inauguration, la cité de la tapisserie est déjà à l'étroit. Un nouveau bâtiment est en chantier, 16 000 mètres carrés supplémentaires pour accueillir 4 salles pour des expositions temporaires et de nouvelles réserves. Les travaux devraient être terminés pour l'été. Et puis un pôle professionnel doit également voir le jour dans un ancien garage qui touche la cité. Mais ce chantier-là n'a pas encore démarré.
Et pour faire patienter jusqu'à cet été, donc Sophie, qu'est-ce qui est prévu ?
2 choses. D'abord, une exposition consacrée à la plus grande commande de la cité. C'est la tapisserie en hommage à George Sand, 23 mètres de long sur plus de 2 mètres de haut. Et puis au printemps, on pourra également assister au tissage de la tapisserie La Sieste de Mai, tirée du film d'animation Mon voisin Totoro. C'est la plus grande tapisserie de la tenture Miyazaki avec plus de 31 mètres carrés.
Eh bien, merci à tous les trois, les journalistes d'ici Cotentin, ici Creuse et ici Hérault, l'actualité d'ici et d'ailleurs avec l'indispensable concours donc du réseau ici ex-France Bleu. Je vous rappelle un numéro de téléphone d'une semaine en France, c'est le 01 56 40 37 37 si vous souhaitez nous suggérer un thème d'émission. Dans un instant, ce sera le journal de 19h d'Hélène Philly et puis ce sera le téléphone sonne consacré ce soir à la souffrance au travail, l'enquête du cabinet Cali Social qui révèle des chiffres alarmants. 25% des salariés se disent en mauvaise santé mentale cette année. On attendait pourtant de meilleurs chiffres sur ce sujet. J'attends vos questions. Témoignage 01 45 24 7000. À tout de suite.